Vous écoutez RTL.
La gastrono-diplomatie.
RTL.
On savait les Français grands amateurs de théorie. Eh bien, les voilà qui se lancent dans un concept nouveau et inédit. Celui de la gastronomie au service de la politique extérieure.
La curiosité est un vilain défaut.
La gastrono-diplomatie, c'est une pointe de talent culinaire, une pincée de politique et un zeste de communication.
Jusqu'à 22h,
secouez le tout et votre recette met le monde à vos pieds.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ils ont, vous l'avez entendu, un boulot pas comme les autres. Le matin, en se levant, ils se disent « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire au chef d'État comme repas, au prince, au président ?» C'est l'élite de la gastro-diplomatie. Elle appartient au club des chefs des chefs. Bonsoir Clélie Mathias.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à iTélé. Vous avez eu l'honneur d'approcher, d'entrer ce club très fermé pour le magazine GQ. Ils se réunissent souvent.
Une fois par an, ils ont une assemblée générale annuelle. L'année dernière, elle était en Suisse, en Italie. Et moi, je les ai suivis à Berne, 3-4 jours. Et l'année prochaine, en octobre, ils iront en Inde.
Alors, j'imagine que c'est le secret absolu sur ces menus, sur ce club fermé. Comment vous avez pu les approcher? J'imagine qu'une convive journaliste à table, oh, ça fait grincer des dents.
Vous y allez avec douceur. Au début, ils sont un petit peu sceptiques. Ils se disent, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va devoir dire? Elle va encore nous demander ce qu'aime François Hollande et Barack Obama. C'est la question qu'ils ont tout le temps, hein, faut pas s'étonner. Et donc, il faut un petit peu les apprivoiser. Et puis, au final, j'ai passé un reportage absolument merveilleux. Et ils sont tous non seulement très sympathiques, très doués, vraiment très talentueux. Alors, il manie aussi l'art de la diplomatie, oui. Aussi.
Ouais. Envers vous.
Ah, bah oui. Et puis surtout, ils n'ont pas le droit de
la langue de bois, vous voulez dire.
Aussi. Comme leur chef, ouais. En fait.
Mais ils cuisinent pendant cette
ça
réunion.
Leur arrive. Oui, ça leur
vous
arrive.
Avez goûté certains.
J'ai eu le droit,
plats.
J'ai eu cet honneur-là de goûter certains plats. Et je peux vous dire que c'est très, très, très bon. C'est délicieux.
Alors, évidemment, ça nous fait rêver cuisiner pour des chefs d'État, des princes, des personnalités marquantes de l'histoire. Métier hors du commun, en quoi il est très différent du métier de grand chef dans un resto 2-3 étoiles?
Qu'est-ce Parce que quand on est cuisinier dans un restaurant, on cuisine pour des personnes différentes. Et là, ils ont un seul et même client. Donc tous les jours, tous les matins, comme vous disiez Sidonie, tous les matins, ils se réveillent, ils se disent, il va falloir que je cuisine pour une même personne. Donc il faut varier, que ce soit pour le privé, dans le cadre d'un repas, on va dire, familial, ou que ce soit alors pour une réception officielle, il faut se poser la question et faire plaisir à cet hôte qui est là tous les jours et qui sera là le lendemain aussi. Donc il faut varier, il faut penser un petit peu les choses autrement,
mais
s'adapter
leur pose
aux contraintes.
La question, c'est-à-dire que le chef va dire, le chef, le cuisinier va dire, allô François, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Enfin, il se parle assez franchement, comme on peut se parler dans un couple ou dans un resto, où il doit imaginer ce que ce président doit bien aimer.
Alors les deux. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, il y a une réunion, à l'Élysée en tout cas.
Ouais.
À l'Élysée, il y a une réunion une fois par semaine où le chef va proposer les menus pour la semaine. Et là, le chef d'État, donc Nicolas Sarkozy ou François Hollande, va choisir lui-même ce qu'il veut manger, s'il est d'accord avec les propositions ou non. Et même quelqu'un, je vous parle de Nicolas Sarkozy, parce que même lui, qui pourtant n'est pas très porté sur la gastronomie, eh bien, à l'époque où il était président de la République, il choisissait et il ne déléguait pas cette tâche. C'est-à-dire que le chef venait le voir, à l'époque c'était Bernard Vaution, il lui présentait les menus et Nicolas Sarkozy y tenait. Donc il validait pour la semaine les menus à venir. Et c'est toujours pareil avec François Hollande là. Donc il y a
un
rapport.
Il ne prenait pas les mêmes desserts que ses invités, Nicolas Sarkozy.
Non, et puis.
Il faisait très attention au sucre.
Il fait très attention au sucre, à l'alcool, et au temps passé au dîner
ça,
aussi,
vrai, ça
hein, surtout. Ça allait très très vite, il fallait gagner du temps.
Clélie Mathias, c'est aussi, j'imagine, un homme très proche du président, alors.
Ah, forcément.
Il voyage tout le temps avec lui?
Non, pas forcément.
Non.
Non, ils sont très proches parce qu'ils se côtoient, ils cuisinent pour lui et sa famille, mais sur certains déplacements, c'est le cuisinier du pays hôte qui reçoit. Ce n'est pas aux cuisiniers français de cuisiner spécifiquement pour le chef de l'État français.
Ouais.
Donc ils sont accueillis. Il arrive parfois en Inde, souvent, le cuisinier accompagne la présidente quand c'était une femme ou le président parce que souvent ils aiment bien que ce soit un peu épicé. Alors ils vont en cuisine et ils relèvent les plats. Non, ça c'est pas assez épicé, il faut rajouter. C'est ce qu'on m'a raconté.
Est-ce qu'on passe à, je sais pas si le terme casting est le bon, mais en tout cas, comment on est recruté, je sais pas, pour devenir le cuisinier de la reine d'Angleterre ou du président chinois
Drastique.
Ouais.
C'est vraiment drastique. Plusieurs entretiens évidemment, vérification des antécédents, obligatoire. Oui. Il y a des questions de sécurité derrière. Mmh. Et évidemment, des tests. Alors, ça dépend après des pays, le nombre d'entretiens, le nombre de tests. Mais ça peut aller jusqu'à 7, 8 entretiens, plusieurs tests. Évidemment, plusieurs profils qui sont mis en concurrence. Hein. C'est une sorte de concours, en fait.
Il vaut mieux être un homme ou une femme pour devenir chef des chefs ?
Peu importe. Ça, y a pas de...
Vous avez rencontré beaucoup des femmes ?
Non, il y en a très peu.
Mais c'est un monde assez masculin, de toute façon.
C'est un monde masculin, mais voilà, dans la cuisine en général. On le déplore
c'est en train
pas,
de se féminiser, voilà. Mais ça reste un monde très masculin.
Exactement, donc il y a peut-être plus de candidats masculins que féminins. Dans le club des chefs qui compte 25 membres, elles étaient 3, elles ne sont plus que 2, parce qu'il y en a une qui a pris sa retraite. Moi, j'ai rencontré donc la chef en Irlande, et puis la chef de la famille Obama. De rien,
c'est
quand
une
même.
Femme.
Ah oui, quand même.
Les États-Unis, c'est une femme, Christita Comerford. Et elle, j'ai pu la rencontrer. Elle a participé à l'Assemblée générale qui avait eu lieu en juillet dernier. La chef irlandaise n'était pas là. Elle n'a pas pu se libérer.
Est-ce que vous avez pu poser à la chef d'Obama la question, qu'est-ce qu'il aime manger, Barack ?
Mais non, mais c'est dur. Alors, il y a tout un protocole. Et surtout pour les États-Unis, évidemment, on brûle tous de savoir comment.
Plutôt
comment...
végétarien, plutôt amateur de viande saignante.
Il a quoi dans son assiette Non, c'est très compliqué.
Rien
de les approcher. Rien ne filtre. Et surtout aux États-Unis, il y a un service de presse qui est très, 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 on va dire, fermé. Et quand Christita Comerford parle, et moi, on a eu un entretien, mais il y a certaines questions où elle dit clairement « Je n'ai pas le droit d'y répondre. Non. » En revanche, je peux vous dire que... Et voilà. Mais c'est très, très contrôlé. Vraiment.
Qui a créé ce chef des chefs et à quoi sert-il ? Est-ce qu'ils se téléphonent souvent entre eux ? Réponse dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Donnez-moi de bons cuisiniers, je vous ferai de bons traités. La devise de Talleyrand est-elle toujours d'actualité ? On pose la question ce soir à la journaliste d'Itélé du magazine GQ, Clélie Mathias. Elle nous fait découvrir les coulisses d'un club très privé, celui des chefs des chefs. C'est un Français qui est à l'origine de ce club. Ça date de quand ? Et qui est-il ?
1977, et c'est Gilles Bragard qui dessine, enfin, entre autres, les vestes. En fait, que portent les chefs ? C'est lui qui... Voilà, les vêtements de cuisiniers, des brigades et tout ça. C'est lui. Et puis, il a eu cette idée assez géniale, quand même, faut le dire, en 1977, de créer ce club hyper select, donc des chefs des chefs. Ça veut dire que seulement les chefs cuisiniers des grandes ce monde... Alors, par grandes ce monde, il y a prince, roi, reine, chef de gouvernement, premier ministre, président de la République... il n'y a que ceux-là qui peuvent faire partie de ce club. Donc c'est quand même une population très restreinte et très particulière.
Ils sont combien d'ailleurs ?
Alors, il y en a normalement un par pays, ouais. Mais là, dans le club, actuellement, ils sont 25.
Et ça sert à quoi ? Ils s'appellent ? Ils se donnent des tuyaux ? C'est quoi l'histoire, en fait ?
Et c'est
à part cette réunion annuelle.
Mais oui, non, il y a un certain corporatisme. Déjà, ils sont très fiers de se retrouver parce qu'ils se comprennent. Parce que c'est ce qu'on disait.
Ils ont les mêmes galères.
Et oui,
toi aussi, il t'a demandé à minuit 2 d'organiser un dîner pour 10.
mais bien sûr, mais c'est un peu ça. Ils se comprennent parce que, encore une fois, ils ne cuisinent que pour une seule et même personne, 365 jours par an. Ce qui est un peu différent d'un travail en restaurant classique, on va dire. Et puis, oui, ils ont besoin de se connaître aussi parce que souvent, leurs chefs sont reçus dans les pays des autres. Donc, s'ils se connaissent, c'est très facile de s'appeler, de passer un coup de téléphone. Ah bah tiens, j'ai ton chef qui vient chez moi, qu'est-ce que je dois savoir ? Est-ce qu'il y a des allergies, des problèmes de santé ? Est-ce qu'il y a des goûts particuliers, des choses à éviter ? Normalement, le protocole le fait, évidemment, chaque fois qu'il y a une visite d'État, les protocoles des deux pays se mettent en accord et précise les choses, mais c'est d'autant plus facile quand les cuisiniers eux-mêmes passent un petit coup de téléphone et se disent privilégie ça, oublie ça.
Oui, mais ça doit être un vrai casse-tête quand même, Clélie, parce que là, quand il y a deux présidents qui se rencontrent, un déjeuner en tête-à-tête, ça va, mais quand ils sont plusieurs, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des interdits de base, c'est-à-dire des aliments de toute façon qui vont poser problème ?
Alors, c'est ce que vous dites, c'est un casse-tête. Parce qu'il faut tenir compte des goûts, des allergies, des problèmes de tout le monde. Donc ça vous arrive à vous quand vous cuisinez, quand vous avez un dîner, mais alors vous imaginez dans cette sphère-là. Oui, il y a des interdits, on va dire.
Les arêtes, par exemple.
Les arêtes, alors. Ouais. Les arêtes, les os.
Tant qu'il veut manger des arêtes, quoi. Pardon.
Oui, mais si jamais il reste des arêtes dans un poisson. Mais non, pas du tout. Tout arrive désossé, décortiqué, sans arêtes, on évite.
Mâché et digéré.
En plus, il y a beaucoup de vieux chefs d'État, donc il faut que ce soit pré-mâché. Non, pardon, c'est horrible ce que je viens de dire.
Tout est vraiment préparé, prédécoupé. Voilà, maintenant, pour des raisons économiques également, on est quand même en crise. Et puis, il y a un problème environnemental qui se pose au monde entier. On évite les fraises en hiver. C'est un exemple parmi tant d'autres.
C'est pas très COP21, quoi.
Non, c'est pas très...
Et le vin, tiens, on n'a pas parlé de boissons, le vin...
Et non, on n'en a pas parlé, parce que ce sont les chefs cuisiniers, non pas les sommeliers. Là.
Ah, bien sûr.
Oui.
Donc, dans ce club très sélect, ils ne parlent pas de vin.
Non, assez peu, en fait. Mais il y a du vin dans les tables de nos dirigeants, bien sûr.
On sait que la politique, ça se passe aussi, et surtout autour d'une table. J'imagine qu'un dîner qui se passe mal, ça peut faire échouer des négociations.
Terrible. Mais vraiment, c'est ce que disait la phrase de Talleyrand, là. Donnez-moi de bons cuisiniers, je vous donnerai de bons traités. Parce que un dîner, un repas qui se passe bien, c'est une atmosphère conviviale. Donc on scelle une amitié ou des relations d'État à d'État. C'est ce qu'on appelle la diplomatie culinaire. Où là, on crée un climat d'apaisement propice normalement aux négociations, ou pour parler, ou achat, vente, quoi qu'il en soit, en transaction en tout cas, et que c'est toujours plus agréable de sceller une amitié et une entente à travers un bon repas. C'est aussi, la cuisine, c'est aussi une manière d'être généreux, de montrer qu'on apprécie, qu'on respecte la personne qu'on invite.
Ça veut dire qu'en ce moment, François Hollande, pardon, je vous interromps, est en Inde. On peut imaginer qu'ils ont fait des plats pas trop épicés, c'est-à-dire que le palais d'un chef d'État occidental n'est pas prêt au plat épicé de la cuisine indienne, qui est pourtant délicieuse.
Alors, j'imagine qu'ils ont, forcément. Sans doute, je ne sais pas le goût de François Hollande pour les épices, mais j'imagine qu'ils ont veillé à ce que ce ne soit pas trop fort.
Sinon, on ne vend pas de rafale.
Ça serait dommage. Bon, évidemment, il y a un gros fantasme autour de la sécurité des repas de nos puissants.
Ah oui.
On a un petit extrait de dessin animé à vous faire écouter.
Les trois Gaulois offrent ce gâteau à la reine des reines.
Comme c'est aimable à eux, tu les remercieras de la part de Cléopâtre, mon goûteur, que l'on appelle mon goûteur.
Voilà, voilà, voilà.
Goûte, goûteur.
Avec joie, ô ma reine. Oula, 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 oula.
Oh. Astérix et Cléopâtre avec Micheline Dax dans le rôle de la reine d'Égypte. Il y a un goûteur pour chaque chef d'État, Clélie Mathias.
C'est un mythe.
Ah bon ?
C'est un mythe.
Ah
ouais ? Oui. Non, il y en a eu un. Ça existait, évidemment. Maintenant, ça ne se fait plus. Il y avait aussi un garde du corps qui, fut un temps, accompagnait l'assiette du président américain de la cuisine à la table. Pareil, il a disparu.
Mais c'est dangereux, non ?
Mais il y a des règles de sécurité drastiques. Ouais. Alors évidemment, j'ai essayé de savoir, de connaître les secrets. C'est comme pour les goûts des présidents. Mais je n'ai pas tout su. Il y a certaines règles à respecter. Cela dépend aussi des pays. En Afrique du Sud, en Thaïlande, les chefs cuisiniers font eux-mêmes leurs courses et ils changent de producteur. Pour pas que ce soit toujours le même producteur.
Et
donc
qu'on le sache,
il y a des habitudes. Ça, ils évitent. Ça fait partie des règles.
Imaginons un menu où tous les chefs d'État de la planète seraient réunis autour d'une immense table. Quel est le mec qui pourrait réunir tout le monde ? Allez, on part faire les courses et on vous explique ça sur RTL. Restez avec nous.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ce soir, on est curieux de ce que mangent nos chefs d'État. Et c'est la journaliste à iTélé, Clélie Mathias, pardon, du corcher votre adorable prénom, qui enquêtait sur le sujet pour le magazine GQ. Avec vous, on raconte cet univers des chefs qui cuisinent pour nos chefs d'État à nous. Et justement, ils ont planché pour la COP21 sur un menu absolument gigantesque qui devait contenter 150 chefs d'État. Bon, il n'a pas eu lieu finalement, ce repas, mais quel était le plat principal imaginé pour satisfaire tout le monde?
En fait, il n'a pas eu lieu, mais il aura peut-être lieu un jour. En tout cas, dès cet été, ils ont imaginé ce club-là. Il s'est dit, voilà, il faudrait qu'on imagine un menu universel qui respecte évidemment les problèmes écologiques, puisque c'était pour la COP21, on en a parlé, des problèmes économiques, on ne va pas servir du caviar, c'est fini ce temps-là.
Mmh. Problèmes religieux aussi.
Problèmes religieux, bien voilà. Sûr. Donc, composer un menu universel. Alors, ils ont un peu réfléchi. Ils se sont dit, voilà, comment on fait? Parce qu'il faut... C'est un casse-tête, là aussi. Il faut réunir plusieurs saveurs, plusieurs pays, plusieurs conditions climatiques qui font que les légumes ne poussent pas forcément dans telle région. Et l'ingrédient sur lequel tout le monde s'est mis d'accord, c'est le riz.
Donc, c'est universel.
Forcément, le riz fera partie de ce menu universel qui sera composé bien d'autres choses. Mais en tout cas, le riz sera là. Et il pourra être canadien ou sauvage, suivant pour la zone, on va dire, Amérique. Puisqu'il y a trois zones quand même dans le monde, ils vont essayer de... Donc la zone Amérique, une zone, on va dire, plus à la fois européenne et africaine. Dans ces cas-là, on parle de quoi? On parle d'un riz qui serait soit espagnol, soit camarguais.
Donc
soit
on imagine un risotto, panachage de riz,
comme
c'est ça,
ça.
Ouais. Non, ça en fonction suivant, du lieu où aura le repas.
Et, si, et pour la zone asiatique, ce sont des zones qui sont très larges. La zone asiatique, là, ça sera plutôt un basmati, par exemple. Mais le riz sera là.
Et un dessert.
Et alors le
un riz au lait.
Non, justement, un pain perdu.
Ah,
pain perdu bon, parce ça. Que le pain et les œufs sont présents partout dans le monde. Alors après, c'est pareil, suivant la zone, il sera un petit peu agrémenté différemment, avec une autre saveur. Ce sera pas le pain perdu à la française comme on connaît, ce sera peut-être un petit peu autre chose en Asie ou en Amérique. Mais ce sera voilà, un menu universel qu'on est capable de faire partout dans le monde. C'est le défi qu'ils se sont lancés. Ils vont essayer de le promouvoir et puis le réaliser. C'est surtout ça, le défi.
Menu, Clélie Mathias, a faible empreinte écologique, puisqu'on a bien compris que c'était prévu pour la COP21.
Il faut que ce soit des légumes et des produits qui sont locaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des fruits exotiques alors que nous sommes en France et que nous sommes en plein hiver.
Et on ne va pas aller prendre du riz basmati la COP21 a lieu à Paris.
Exactement. D'accord. Et si nous sommes, par exemple, aux États-Unis, il y a du riz là-bas. Donc, on va éviter d'aller chercher ailleurs et donc on va essayer de réduire l'empreinte carbone.
Et si on parlait d'un dîner qui avait vraiment lieu, c'est plutôt d'ailleurs un déjeuner. Nous sommes en 2014 lors des célébrations du 70e anniversaire du débarquement. Il y a de nombreux chefs d'État qui sont présents en France, 18 il me semble. C'est un déjeuner qui a lieu au château de Bénouville dans le Calvados. On vous a bien planté le décor. Est-ce qu'on connaît le menu qui a été servi à cette occasion?
Alors la chose rare, on l'a connu. Alors de mémoire, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du Saint-Pierre, un fondant de veau, poire caramel, des produits plutôt normands. Des produits normands qui n'ont pas été concoctés par le chef de l'Élysée, qui était Guillaume Gomez. Il a été conseillé sur ce déjeuner, mais ce n'est pas lui qui a travaillé. Ce sont 5 chefs de la région Normandie qui ont planché. Et parmi ces chefs, donc il y en a 4 étoilés et il y en a un, Joël Rapp, qui est toujours le responsable des cuisines de l'hôtel de la préfecture de région. Donc on a quand même associé quelqu'un, on va dire... du protocole républicain, mais donc 4 drôle, chefs étoilés et Joël Rapp et les conseils de Guillaume Gomez qui est le chef cuisinier de l'Élysée.
Il y avait la reine d'Angleterre à ce déjeuner. Oui. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas manger? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas servir à la reine d'Angleterre?
Alors elle adore la cuisine française parce qu'elle a été élevée dans cette tradition. Puis je vous rappelle quand même que la gastronomie française, c'est tout un art et nous sommes respectés pour ça. La reine d'Angleterre, si vous lui servez du cheval, ça ne va pas le faire. Des cuisses de grenouille, des escargots, non plus. Faut éviter.
Voilà, j'ai noté ça. Je vais être bien chez moi bientôt.
Donc... vous m'inviterez. Oui. Est-ce que le président Hollande a aussi donné ses consignes?
Sans doute, mais ça, je ne les connais pas.
Ah, décidément.
La faute à Jacques Chirac.
Pourquoi la faute à Jacques Chirac?
Parce que Jacques Chirac, fut un temps, avait dit qu'il adorait la tête de veau. Lui servait à peu près à chaque repas. Et jusqu'à saturation, hein, quand même.
Donc de son plat préféré, c'est devenu son plat aboré.
Du coup, ils refusent tous de dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils préfèrent. On se souvient aussi que George Bush père avait dit un jour qu'il détestait les brocolis. Le lendemain, tous les producteurs de brocolis des États-Unis avaient déverser des tonnes de brocolis devant la Maison Blanche. C'est pour ça, en fait, qu'ils ne disent pas leurs préférences alimentaires. Il
faut
éviter.
Que sait-on des habitudes alimentaires de nos politiques? Parce qu'on en sait, on a quand même quelques infos. Par exemple, saviez-vous que Nicolas Sarkozy est prêt à faire un vrai caca nerveux?
Vous écoutez RTL.
La glace au café.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
La gastronodiplomatie, ça sert à vendre l'image d'un pays pour influencer ses partenaires, mais aussi à attirer les touristes et les investisseurs. Et enfin, à préserver, voire même à créer des emplois.
RTL.
Après l'Espagne, le Danemark, la Pologne et même le Pérou, après tous ces pays, la France a compris que la grande cuisine est devenue une arme diplomatique.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Nos puissants ont du palais, certains sont même de fins gourmets, mais qu'y a-t-il dans leur assiette? On pose la question à notre invitée, la journaliste Clélie Mathias, qui a enquêté sur cette diplomatie des papilles et donc ce club très privé des chefs. Des chefs d'État. C'est vrai que Nicolas Sarkozy a piqué une crise parce qu'on avait oublié de lui servir son dessert.
Air Sarko-One a tremblé sous ses cris.
C'était dans l'avion.
Oui, c'était dans l'avion parce que Nicolas Sarkozy adore, mais vraiment adore la glace au café et que voilà, le chef avait oublié de mettre de la glace au café dans les réserves de l'avion et du coup ça a fait un scandale, c'était un drame. Alors par la suite, Bernard Viotion accrochait une pancarte toujours dans l'avion en disant surtout n'oubliez pas la glace au café du président.
Et qu'est-ce qu'il a pris à la place Nicolas Sarkozy? Alors, un peu de fromage?
Non, il avait supprimé les fromages quand il était à l'Élysée parce que ça faisait perdre du temps et il les avait, alors là on en revient. Et oui, il avait rétréci la durée des repas qui devaient ne pas dépasser une heure. Et justement, c'est là où on en vient à ce côté diplomatique. C'est-à-dire que pour faire plaisir à Angela Merkel adore les fromages français. Et du coup, Nicolas Sarkozy avait accepté de rallonger exceptionnellement les déjeuners et dîners quand Angela Merkel venait à l'époque, justement, pour lui servir les fromages qu'elle aimait tant. Et François Hollande, quand il est arrivé à l'Élysée, lui, il adore les fromages, et il a rallongé le temps des repas. Maintenant, on est à peu près à 1h10 en moyenne.
On sait grâce à son ami Julie Gayet que c'est un gourmand. On lui a prêté cette phrase-là. C'est un gourmand mal habillé, c'est ça?
Il aime beaucoup le chocolat.
C'est ce qu'elle a dit. Hein. C'est pas moi qui l'invente, je ne me permettrai pas. J'ai beaucoup
comme
de respect pour nos chefs d'État.
François Hollande raffole du chocolat en dessert.
Ah oui, c'est pas le seul.
Non, mais il faut toujours qu'il y ait un petit peu.
François Hollande, on se souvient qu'il avait fait un régime assez drastique avant la campagne électorale. Il a repris un peu de poids après. Est-ce qu'il suit un régime, à votre connaissance, Clélie Mathias?
Alors ça ne se dit surtout pas, on évite. Mais en général, les chefs cuisiniers, que ce soit pour François Hollande et pour les autres, vous imaginez quand même que c'est beaucoup de repas, de dîners, de déjeuners, d'affaires. Donc souvent, ils ont tendance tous, hein, prend un petit peu d'embonpoint, forcément, à force de manger.
Donc il y a un ordre, j'imagine.
Donc les chefs ont pour, on va dire, devoir de veiller à la santé et à la ligne du président. Alors, on cuisine plus comme avant. Au lieu de servir un énorme tourneau d'eau, par exemple à l'Élysée, maintenant on sert deux petites portions.
Ah oui,
on allège les sauces aussi. Les sauces ont été allégées. On fait attention.
On suit aussi l'allègement de nos repas à nous, ou même dans les grands restaurants. C'est vrai qu'on ne sert plus la nourriture à la française comme on le faisait il y a 40 ou 50 ans, évidemment.
Exactement, ça a suivi le sens de l'histoire.
Est-ce qu'une simple soupe pour un président ou un chancelier, c'est envisageable?
Des œufs à la coque aussi, le prince Albert de Monaco qui aime beaucoup les œufs à la coque. Oui, quand ils n'ont pas de dîner protocolaire, ils dînent en privé, comme vous et moi. Et dans ces cas-là, les chefs doivent aussi cuisiner pour eux. Et souvent, c'est très léger. Pour Angela Merkel, une simple soupe suffit. Des œufs à la coque pour Albert de Monaco. Ils ne sont pas obligés toujours de dîner avec entrée, plat, fromage, dessert.
Ce sont des gens normaux. Hein. Le prince de Monaco, qui a un engagement écolo assez fort, ça veut dire qu'il y a des plats qu'il ne faut surtout pas lui servir,
par
exemple.
Pas de thon rouge.
Ah
le
oui,
thon rouge qui
thon
est,
rouge
menac...
est menacé,
là, voilà, l'espèce est menacée, ouais. Évidemment pas de caviar. Et le thon rouge surtout, ça a été banni de la carte pour Albert de Monaco.
Vous avez noté, Sidonie?
Oui, pas de thon rouge quand Albert vient manger à la maison.
Voilà.
Et Clélie Mathias, depuis 2012, est-ce qu'il y a eu des grosses coupes budgétaires dans l'assiette présidentielle en France?
Non, pas forcément, oui, pas à ma connaissance. Ça a été. Évidemment, il y a des coûts budgétaires à peu près sur tous les services, on va dire, de fonctionnement.
Ah, j'avais cru qu'ils étaient obligés de se serrer un peu la ceinture.
Un peu plus, on fait attention. Et surtout, on évite les mets luxueux. Encore une fois, dans les années 80, sous François Mitterrand, on servait régulièrement du caviar. Ça ne va pas tout à fait avec les engagements et les promesses électorales de François Hollande de servir à sa table du caviar. Donc il y en a peut-être, mais il y en a plus aussi souvent qu'avant. C'est en cela qu'on fait attention à donner une image, et ça passe par la gastronomie, ça passe par la table, un peu plus en adéquation avec la situation économique et encore une fois écologique aussi.
Mmh. On a parlé des péchés mignons de Sarkozy et sa glace au café. François Hollande, il vous racontait ça dans l'article, et ses pâtes molles et dures. Alors ça, c'était quoi les pâtes molles et dures?
C'est les fromages. Il aime tout.
Ah pardon.
Je croyais que c'était des spaghettis mal cuisinés.
Non, c'est,
ça
dit, tiens, c'est une sorte de pâte spaghettis un peu molles dures, rien à voir.
Valérie Giscard d'Estaing avait un problème de pâtes, mais c'était pour les c'était pour les profiteroles. Il fallait que la pâte soit molle mais non croustillante.
Ah
et
oui,
si c'était pas le cas, colère noire.
Ouais. Ces chefs d'État, je reviens à ce cercle très fermé, les chefs des chefs, ils se réunissent combien de temps? Une semaine, une fois par an? Ça dure.
Ça dépend d'où ils vont. Ouais. Mais c'est souvent entre une semaine et 10 jours. Mmh. Là, en octobre prochain, ça sera en Inde. Ils ont été reçus à Buckingham Palace. Parce qu'à chaque fois, ils sont reçus, mais comme des diplomates, comme les diplomates qu'ils sont. Et ils sont reçus comme leur chef.
Tapis rouge.
Sont les chefs d'État. Tapis rouge. Donc, quand ils sont allés en Angleterre, ils ont été reçus par la reine d'Angleterre à Buckingham Palace, qui est assez rare, faut bien le noter. Quand ils sont allés donc faire leur assemblée générale aux États-Unis, ils ont été reçus par Barack Obama. Il y a, et quand j'étais à Berne avec eux, il y a eu tout un dîner très protocolaire qui a été fait avec en présence de tous les ambassadeurs qui sont donc à Berne, qui sont présents à Berne. Ils sont reçus comme des chefs d'État.
J'imagine
c'est très important.
Qu'à chaque nouveau chef d'État, un nouveau chef cuisinier. On garde pas l'ancien.
Pas forcément. Regardez à l'Élysée, Bernard Vaution a servi. Il a été pendant 41 ans dans les cuisines de l'Élysée. Alors des chefs d'État, il en a connu. Ça dépend, par exemple, au Canada.
Que de secrets doit-il connaître?
Oui, beaucoup, beaucoup. Et puis ils le disent. On a un devoir de réserve aussi parce qu'on les connaît, on les voit au jour le jour, donc on ne peut pas tout dire. Mais au Canada, par exemple, le chef cuisinier est le chef du parti. Et donc, en cas d'alternance, ce qui s'est passé à l'automne dernier, le chef que moi j'ai rencontré en juillet n'est plus en fonction. C'est un autre qui l'a remplacé, puisque c'est un autre parti au pouvoir.
Tout simplement. Merci pour ces secrets sur la diplomatie des papilles. Jolie formulation trouvée par Thomas. Merci, Kelly. À bientôt.
Pour une fois que j'en trouve une bonne de formule.
À bientôt, cabinet des curiosités.
Kelly Mathias, qu'on retrouve sur iTélé.
Vous écoutez RTL.